Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui c'est donc la deuxième partie de la discussion commencée mardi dernier avec Elie Tenenbaum, Joseph Enrotin et aujourd'hui donc Stéphanie Pézard sur le retour à la haute intensité et la problématique de la masse dans les armées. Et après avoir situé et posé le problème en quelque sorte la semaine dernière, on envisage aujourd'hui les efforts et les pistes pour s'en sortir. Alors, tout ça, toute cette question, toutes ces limites en fait des armées françaises qu'on voit, qu'on fait apparaître depuis tout à l'heure, ça pose évidemment donc la question des alliances et des coalitions. C'est-à-dire, c'est la question de bon, ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul, est-ce qu'on pourrait pas le faire à plusieurs, d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire, je veux dire, s'il s'agit bon, d'affronter les Russes, on va en reparler, mais on sait que c'est le scénario de travail le plus commun, disons, pour le retour à la haute intensité. J'espère bien que l'armée française pense pas pouvoir le faire tout seul, et qu'il se doute que ça va impliquer à minima les autres pays européens, et plus probablement les États-Unis. Donc ma question c'est comment est-ce que tout ça, cette coopération internationale entre alliés, interalliance, comment est-ce que c'est factorisé, comment est-ce que c'est intégré dans cette réflexion sur la masse dans le cadre du retour à la haute intensité ?
Fait clairement partie des hypothèses de travail, et ce depuis longtemps, hein, dès le livre blanc de 2008 que citait Joseph initialement. Les hypothèses d'engagement majeur sont explicitement désignées comme des hypothèses de travail en coalition. Et donc la France n'envisage pas ce type d'engagement de manière unilatérale, sachant encore une fois que dans ce qui est dans le cas de la France, les intérêts vitaux stricto sensu sont garantis, préservés par la mécanique de la dissuasion qui, elle, ne fonctionne pas justement sur des hypothèses de soutien ou pas d'autres puissances, qui est là une garantie d'indépendance totale de cette chaîne-là. Donc,
sur le vital, on a la dissuasion et on dépend de personne.
Exactement.
Et puis sur l'accessoire.
Sur les intérêts réels, mais limités ou donc non vitaux, eh bien là, on a un objectif, on a une ambition de pouvoir peser au sein, soit en unilatéral, mais sur des conflits qui sont à notre portée, soit en coalition, dans les conflits majeurs qu'on pourrait imaginer, que ce soit du détroit de Taïwan jusqu'au trou de Souvlaki.
Alors, de facto, je pense qu'il y a quelque chose qui aide pas mal justement à cette réflexion finalement sur la coalition, c'est le fait qu'on observe une vraie convergence en la matière. C'est-à-dire que les Polonais, par exemple, qui sont en première ligne quelque part par rapport à la Russie, bon, très clairement pour eux, leur hypothèse d'engagement majeur, c'est la Russie directement, ils sont en train de s'équiper pour, etc. Mais très clairement, eux disent, il faudra que l'OTAN, si jamais on est attaqué, vienne. Et d'une manière générale, tous les États, grosso modo, à partir de 2014, mais se rendent bien compte que la situation change, donc tout le monde reglisse petit à petit vers une logique de type haute intensité, de conflit interétatique d'une manière générale. Donc tout de suite, quand on arrive en disant si jamais ça se passe, il faudra qu'on travaille en coalition, tout le monde le pense quelque part. Tout de suite, ça facilite considérablement les choses.
Alors je vous propose donc maintenant d'écouter Stéphanie Pézard autour de son rapport pour la Rand Corporation, qui parle de tout ça, mais qui en parle depuis le point de vue américain, et ce qui est un renversement de perspective qui permet peut-être d'envisager les choses, disons, avec un peu plus de distance. J'ai donc le plaisir à présent d'être en ligne avec Stéphanie Pézard, chercheuse à la RAND Corporation, où vous avez donc récemment publié un rapport sur les armées françaises et leurs capacités, un rapport coécrit avec Michael Shurkin, que les auditeurs connaissent bien, puisqu'on avait fait une émission avec lui l'an dernier sur le Tchad, peu après la mort d'Idriss Déby, et avec aussi David Oshmanek, qui est aussi un de vos co-auteurs. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous depuis Washington, Stéphanie Pézard.
Bonjour Alexandre.
Alors c'est un rapport qui s'intitule donc « Strong Allies Stretched Thin, an Overview of France's Defense Capabilities from a Burden-Sharing Perspective ». Ce qui va être pas facile à traduire, mais on pourrait traduire ça grossièrement par, disons, « un allié puissant mais à bout de force » ou « un allié puissant mais surmené », tour d'horizon des capacités militaires françaises du point de vue, alors ça c'est pas facile aussi, du burden-sharing, donc disons de la coopération ou du partage de responsabilités militaires. Alors évidemment c'est très intéressant comme beaucoup de choses que fait et que produit la RAND Corporation. On a déjà parlé ponctuellement un peu de cette institution, mais ce qui est très intéressant avec la RAND Corporation, c'est que c'est à la fois un think tank et en même temps c'est aussi un think tank qui est très lié aux armées américaines depuis très longtemps, qui a notamment eu un rôle dans disons des réformes des armées américaines à certaines charnières historiques. Donc évidemment, c'est de la recherche indépendante, mais qui est aussi tout à fait influente et lue à Washington et dans les milieux de défense américains. Donc peut-être que ma première question serait de savoir pourquoi ce rapport, pourquoi ce tour d'horizon des armées françaises. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement, disons un assessment, une évaluation des principaux alliés des États-Unis, ou est-ce que vous vous êtes dit que là, le contexte invitait particulièrement à poser ces questions?
Alors, non, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait régulièrement. On a assez peu d'études, en fait, qui sont… La plupart de nos études sont vraiment uniques. C'est assez rare qu'on ait des études qui se répètent à date régulière. C'est une étude qui a été commandée par le secrétariat à la Défense, OSD, et qui a été intervenue un peu dans le contexte de discussion sur… burden sharing, donc partage du fardeau, partage des responsabilités militaires, comme vous l'avez bien formulé. Mais c'était une réflexion assez générale, et dans cette réflexion générale, on a décidé de faire des études de cas. Et à ce titre, je voudrais signaler qu'il y a une étude jumelle de celle sur la France qui concerne le Japon, qui a été réalisée par mon collègue Jeffrey Hornung, et qui regarde en fait la même chose, mais dans l'Indo-Pacifique, et dans le cadre d'une hypothèse d'une guerre de haute intensité contre la Chine.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un peu l'espèce de postulat de base. Alors, bon, l'étude jumelle sur le Japon, c'est évidemment face à la Chine. Pour la France, bon, ce qui vous intéresse, c'est plutôt face à la Russie. Enfin, en tout cas, dans l'hypothèse de la haute intensité où la France serait en première ligne, c'est, bon, disons, une confrontation directe, peut-être dans l'Est de l'Europe, avec la Russie. Donc, voilà, l'angle qui est vraiment stimulant, c'est celui de la coopération, parce que c'est vraiment qu'est-ce que les États-Unis peuvent attendre de la France dans ce cas de figure-là. Donc, comment est-ce qu'on envisage les choses de Washington? C'est-à-dire, à la fois, bon, il y a quelque chose de substantiel, c'est-à-dire un constat sur l'évolution, comment ont évolué les armées françaises, ce qu'elles savent faire et ce qu'elles ne savent pas faire. Mais aussi, il y a la partie complémentarité, c'est-à-dire avec ce que fait l'armée américaine et ce dont elle pourrait avoir besoin si elle venait à s'investir sur un front de haute intensité, par exemple en Europe.
Je pense que toutes les réflexions autour des guerres de haute intensité ne se font pas autrement, tant du point de vue américain que du point de vue français, hors de l'hypothèse d'une coalition. Ce sont forcément des guerres de coalition, ce sont forcément des guerres qui impliquent différents alliés et partenaires. Donc cette notion de la complémentarité des forces, mais aussi comment elles s'ajoutent, et aussi de comprendre non seulement quelles sont ces forces, mais quelles sont potentiellement les contraintes politiques à l'emploi de ces forces, sont tous des facteurs pertinents. Donc les contraintes politiques sont assez limitées pour la France, par exemple, mais du côté du Japon, où il y a des contraintes constitutionnelles très fortes, là, par exemple, ça peut jouer un rôle beaucoup plus important.
Mais alors, le constat que vous faites, on peut le dire, c'est vraiment tout est dans le titre, quoi, un allié puissant mais un peu épuisé, c'est-à-dire, en gros, le constat que vous faites, c'est que ce qui est très pratique, c'est que la France sait tout faire, Ce qui est très problématique, c'est qu'elle ne pourra probablement pas le faire très longtemps si jamais ça en vient là, quoi.
Oui, tout à fait. Alors ça, je trouve que votre traduction du titre est un peu sévère. Hein. Nali à bout de souffle, c'est beaucoup plus sévère que ce qu'on a essayé de communiquer, qui était simplement épuisé. C'est aussi un peu sévère. C'est stretch thin, c'est vraiment qu'on en demande beaucoup. Et que, en gros, plus on peut faire large, moins on va pouvoir faire en profondeur. Soit on a de la superficie, soit on a de la profondeur. Mais il y a forcément des équilibrages et des choses qui peuvent se perdre. Donc c'était plus cette analyse de les Français peuvent, les armées françaises ont préservé. Et c'était vraiment toujours une volonté politique de préserver toute une gamme de capacités. Mais après, les possibilités de profondeur sur chaque capacité ne vont pas forcément être là. Et je ne crois pas que ce soit un constat très, très nouveau, très franchement. Je me suis beaucoup appuyée pour cette recherche sur des rapports du Sénat, de l'Assemblée nationale, des comptes rendus, d'auditions de responsables militaires français, parce que c'était plus limite leur interprétation et leur compréhension de la réalité de ce qu'ils avaient comme ressources et ce qui manquait potentiellement qui m'intéressait que mon analyse à moi.
Mais s'il fallait résumer le constat, disons, en quelque sorte opératif, c'est-à-dire si on admettait ce scénario qui ne se passera jamais comme ça, mais disons d'un affrontement plus direct avec la Russie, comment est-ce que vous envisagez, disons, la France ? Est-ce que c'est, par exemple, un point de chute pour les États-Unis, c'est-à-dire un allié de premier fond qui peut faire face à peu près à toutes les menaces et auxquelles ensuite il faudrait abonder en renforçant ses capacités ? Est-ce que c'est, ou est-ce que c'est un allié qu'il faudrait mettre en quelque sorte dans une case et ensuite diversifier les capacités autour de lui ?
Alors, on n'a pas examiné différents scénarios. C'est vraiment cette hypothèse d'une guerre conventionnelle contre la Russie, c'est vraiment une sorte de d'arrière-fond. C'est vraiment une hypothèse de travail quelque part. On ne fait pas de la prospective, on ne dit pas que ça va arriver, mais c'est si on pense guerre de haute intensité en Europe, forcément, le seul adversaire possible, c'est la Russie. Après, que ça arrive de cette façon-là, ça me paraît, enfin, c'est, encore une fois, est-ce que c'est plausible, pas plausible, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a essayé de définir. On nous a aussi également dit, cette étude aussi ne regarde pas, comment dire, cette hypothèse ne prend pas vraiment en compte la dissuasion nucléaire. Le fait qu'avant qu'on arrive à une guerre conventionnelle, il y aura sans doute tout un échange de menaces nucléaires qui pourraient empêcher évidemment le déclenchement d'une guerre conventionnelle. Donc, il faut vraiment voir cette guerre hypothétique comme ce qu'elle est, une guerre hypothétique, une sorte de, d'hypothèse de départ. Donc, on n'a pas du tout fait différents scénarios. C'était pas un wargame. C'était pas laisser comme ça, etc. D'autant plus que ça serait aussi mettre la France dans une position un peu de... On n'a jamais voulu dire... Comment dire ? La France n'est pas un pion. La France est une entité politique souveraine qui prendra ses décisions. Donc, l'idée, c'était pas du tout de dire les États-Unis peuvent utiliser la France comme ci, comme ça et comme ça. Ça serait aberrant et c'était pas du tout l'idée de l'étude. Donc, pour cette raison, on est resté vraiment au niveau de quelles capacités on pourrait avoir besoin et comment est-ce que, quelle est la situation de la France actuellement au regard de ses capacités. Mais regardant également un peu, Des tendances futures. Comment est-ce que ça se dessine ? Est-ce qu'il y a un intérêt croissant pour la haute intensité qui pourrait mener à des rééquilibrages ? Certains des manques, des lacunes qu'on a soulignées, ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps et qu'on a commencé...
Alors, par exemple, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns ?
Il y a par exemple des au niveau de la préparation opérationnelle, des hélicoptères, par exemple. Il y en a très peu qui sont opérationnels par rapport au parc d'hélicoptères. Ça, c'est connu depuis longtemps. Il y a des rapports qui sont sortis sur la question et il y a des efforts qui sont faits pour répondre à ce problème. Après, c'est des efforts de longue haleine, mais et on part d'assez bas dans ce domaine particulier. Au niveau des munitions également, notamment pour la marine, simplement des stocks assez bas, qui veulent dire qu'on peut faire beaucoup de choses, mais pas longtemps.
Et inversement, on peut mentionner que les forces que vous soulignez, c'est alors d'abord une totalité du spectre, et puis c'est aussi, il y a des compétences qui sont très nettes, les forces spéciales notamment.
Tout à fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les forces spéciales, bon, c'est pas forcément la chose la plus centrale dans un conflit de haute intensité où justement on cherche à gagner de la masse en quelque sorte. C'est-à-dire, le constat, c'est celui d'une armée relativement dimensionnée pour ce qu'elle fait actuellement et pas forcément pour autre chose.
Oui, la masse, c'est exactement la question que ce rapport soulève. Comme je dis profondeur, mais vous pouvez utiliser le mot masse, c'est exactement la même chose. C'est la capacité, si on se centre sur un type de crise qui demande vraiment énormément de moyens, énormément de puissance, là, il y a vraiment cette question de est-ce qu'on a ce qu'il faut.
Très bien, merci beaucoup Stéphanie Pézard.
Merci à vous.
Je rappelle donc ce rapport Strong Light Stretch Thin, An Overview of France's Defense Capabilities from a Burden Sharing Perspective, écrit donc avec Michael Shurkin et David Hochman, qui est évidemment librement consultable sur le site de la RAND. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, j'aurais aimé vous faire réagir là-dessus, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce bilan vu depuis les États-Unis? Et, accessoirement, bon, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait donc imaginer que, pas ils s'organiseraient pour ça, mais qu'on pourrait imaginer une complémentarité entre le grand frère, très littéralement, si on regarde les tailles des budgets des armées américains, et ce que pourraient faire peut-être des nations plus de première ligne, ne serait-ce que géographiquement, sur un théâtre de haute intensité en Europe, par exemple. Élie Tenenbaum,
c'est le grand sujet sur le burden sharing. Évidemment, les Américains, on le sait depuis très longtemps, incitent leurs alliés européens de l'OTAN à dépenser plus en matière de défense, mais pas n'importe comment. C'était notamment la thématique de Smart Defense à l'époque de Barack Obama.
N'importe comment, on peut dire, il y avait le truc du 2% PIB qui devait être consacré à la défense.
Ça, voilà. C'est le quantitatif, mais sur la manière dont il fallait dépenser ces 2%, donc le quantitatif, les 2%, ça c'est, j'ai envie de dire, de toute éternité. En tout cas, ça remonte au moins à la fin de la guerre froide et même en fait avant, en disant, écoutez, les Européens, vous devez porter votre part et donc nous dépensons beaucoup pour la défense en général et pour votre défense en particulier, et vous devez dépenser aussi. Mais sur le côté comment dépenser, vous devez dépenser ces 2%, ça c'est quelque chose qui est venu un peu plus tardivement, où les Américains, disons, ont commencé à dire allez là où vous n'allez pas créer des doublons sur nos capacités. Il y a des choses que nous savons très bien faire et sur lesquelles nous investissons, sur les systèmes de C2, hein, de commandement et de contrôle, sur les transports stratégiques, sur
les commandements et contrôle, tout simplement le contrôle des opérations, c'est-à-dire la coordination des opérations.
La capacité à assurer un poste de commandement à différents niveaux et donc avec toutes les transmissions, les communications, évidemment le soutien, la dimension logicielle qui va derrière avec tout ce que
donc ça c'est clairement pas la chasse gardée, mais c'est clairement le truc où les Américains ont la valeur ajoutée qu'ils peuvent proposer à leurs alliés en tant que tels.
Au niveau, alors après il y a différents niveaux, hein, évidemment, mais au niveau de la coalition, eux, ils ont toujours dit c'est pas la peine de que vous investissiez là-dedans, parce que nous on a déjà investi, on a les infrastructures pour vous accueillir. C'est ce qui s'est passé sur l'opération Inherent Resolve, face à la coalition contre Daesh. Bon, c'était pas un cadre OTAN, mais c'était clairement les Américains qui assuraient tout ce qu'on appelle le C2. Et donc, ils incitent à ne pas investir trop là-dedans. Et sur un certain nombre de ce qu'on appelle, encore une fois, dans un anglicisme, les enablers, c'est-à-dire un certain nombre de choses qui rendent possible ensuite les capacités du devant de la scène, et donc sur lesquelles les Américains, eux, s'estiment comme forts et sur lesquelles, encore une fois, ils n'incitent pas les Européens à dépenser. En même temps, tout ça part de l'idée que les Européens auront, les Américains, dans le cadre de leur coalition, sur tous les scénarios possibles. Or,
alors, juste par opposition à ça, à créer des doublons, ils voudraient quoi les Américains ? Ils voudraient qu'on fasse des chars de bataille ? Ils voudraient qu'on fasse des missiles ? Enfin, je veux dire, c'est
quoi ? Qu'on apporte de la masse opérationnelle, justement, pour renforcer sur un certain nombre de choses, parce qu'eux, ils aimeraient bien pouvoir retirer, justement, de la masse de manœuvre d'Europe pour pouvoir la rebasculer vers des théâtres où ils estiment qu'ils en auront plus besoin.
Par exemple, situé plus à l'est.
Situé plus à l'est.
Par exemple, dans des mers plus pacifiques. Enfin, c'est qu'ils n'en ont d'ailleurs plus que le nom. Joseph ?
Oui, concrètement, en fait, la question, la vision américaine, c'est une vision un peu toute éternité, on va dire, hein. Déjà à l'époque de la guerre froide, l'emphase sur les C2, l'emphase sur un certain nombre de facilitateurs, d'enablers, était bien là. Sauf que aujourd'hui, si on se retrouve au charbon, entre guillemets, donc vraiment en première ligne, il y a des enablers dont on a vraiment organiquement besoin, que ce soit du commandement-contrôle au plan opératif, donc ça veut dire aussi de la numérisation, ça veut dire toute la suite logicielle qui va derrière cette numérisation, avec la question des partages, quelles sont les passerelles avec les États-Unis, etc. C'est quand même des domaines extrêmement souverains, qu'à mon avis, il faut garder extrêmement, extrêmement souverains. À côté de ça, on a vu sur Serval, par exemple, qu'on avait un vrai déficit en matière de projection stratégique, en matière d'avions de transport stratégique. C'est les Britanniques qui nous ont donné un coup de main là, sur ce sujet-là.
Il est très connu. Bon, alors maintenant, il y a des A400M qui sont des avions gros porteurs qui permettent de déplacer. Et on peut dire, la vanne, tout le monde sait que tous les soldats de l'armée de terre, tous les officiers de l'armée de terre rêvent des hélicoptères lourds qu'ont les Anglais et les Américains.
Ça, c'est
les
transports lourds tactiques. Oui. Mais puis ensuite, il y a la mobilité stratégique. On l'a vu là sur l'évacuation de Kaboul, la dépendance totale, évidemment, des Européens vis-à-vis de ces vecteurs qui aujourd'hui sont presque de manière exclusive monopolisée par les Américains, ce qui évidemment organise les avions gros porteurs en stratégique, parce que bon, le Chinook, c'est une fois qu'on est sur le théâtre, évidemment, ça c'est de la capacité de transport tactique, mais en gros porteur stratégique des C-5 Galaxy et des C-17, évidemment il n'y a pas beaucoup de pays européens qui en ont et qui sont capables de faire ce type de pont aérien. Après, si ça se passe avec les Américains, tout se passe bien. La question, évidemment, c'est les hypothèses où les Américains sont soit pas du tout dedans, soit simplement ne veulent pas mettre à disposition un certain nombre de ces enablers, ou ne veulent pas assurer le rôle de nation cadre pour des raisons politiques ou pour des raisons de priorité opérationnelle, tout en étant éventuellement présent dans la coalition, mais à ce moment-là, en fait, très rapidement, les choses s'arrêtent.
En fait, la spécialisation des forces, parce que c'est de ça dont il s'agit, à certains, les fonctions hautes, en l'occurrence les États-Unis, à d'autres, le combat à pied et compagnie, tout ça, c'est très bien, mais la spécialisation, finalement, elle est très managériale. Parce que c'est vrai que voilà, sur le papier, ça a l'air joli, ça permet de faire des économies. Mais en pratique, la guerre est un domaine par essence politique. Et effectivement, si on se retrouve avec un Trump bis, etc., et qui tout à coup neutralise les États-Unis par rapport à l'Europe, effectivement, à ce moment-là, les Européens se retrouveraient démunis sur un certain nombre de capacités. La spécialisation, historiquement, alors, non seulement ça ne fonctionne pas, ça pourrait fonctionner dans un système fédéral, pourquoi pas, un système d'Union européenne fédérale, on pourrait imaginer que, bon, d'une part, on n'en est pas là, d'autre part, l'autre problème de la spécialisation, c'est qu'une fois que vous abandonnez des capacités, grosso modo, ça va très vite, hein, les Néerlandais avaient abandonné la capacité à organiser des trains au plan ferroviaire, donc de véhicules, hein, pour des projections continentales de blindés. Voilà, parce que les gens qui s'en occupaient sont partis à la retraite, ont été redisséminés. Voilà, ça a pris grosso modo 2 semaines pour que la capacité soit perdue. Et maintenant, ça fait plusieurs mois qu'il cherche à récupérer une capacité qui est uniquement une capacité, on va dire, d'ordre bureaucratique, négociée avec les chemins de fer. Il ne s'agit pas de fabriquer les wagons, il ne s'agit pas de... voilà. Alors, de facto, si on abandonne des capacités type C2 et compagnie, là, ben, ce sont des savoir-faire qui sont perdus, et là, on parle en termes d'années en matière de réacquisition. Donc la vision américaine, de ce point de vue-là, peut-être pas la plus optimale, la plus optimale possible. Trust in me, in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, Daddy. Oh, yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along.
Ensuite, là, on a la vision d'ensemble, aussi bien à l'échelle des armées françaises qu'à l'échelle des coalitions, disons des configurations dans lesquelles on pourrait être amené à la haute intensité. J'aurais aimé peut-être maintenant plonger un peu plus dans le détail, dans les logiques des différentes armées, parce que c'est pas les mêmes. Enfin, les préoccupations sont assez communes. On voit qu'il y a des préoccupations communes, par exemple sur les munitions, etc. Des problèmes qu'on retrouve un peu partout, mais en fait, c'est quand même très différent. Et c'est notamment un grand mérite de ce focus stratégique de l'IFRI de très bien montrer comment chaque armée a sa propre appréhension et ses propres problèmes face à la haute intensité. Alors, on parle très souvent de l'armée de terre, parce que l'armée de terre, évidemment, on voit bien l'idée, il faut des chars, il faut de la masse au sol pour... c'est très facile, mais... Enfin, c'est très facile à imaginer, mais j'aurais peut-être aimé commencer avant tout par l'armée de l'air et de l'espace, en ce qui concerne la France, parce qu'elle me semble tout à fait représentative d'un certain nombre de tendances qui se passent, qui se pose, une problématique qui se pose dans le contexte de la haute intensité. Déjà parce qu'elle a été très lourdement touchée par les coupes budgétaires et de personnel depuis 20 ans, aussi bien en termes de personnel que d'appareils, avec, on peut dire par exemple, des commandes de Rafale qui sont régulièrement revues à la baisse, avec des Mirages qu'on a beaucoup prolongés parce qu'on en avait besoin et qu'on n'arrivait pas à s'en passer. Et notamment dans ce focus stratégique de l'IFRI, l'auteur, qui est donc Raphaël Briand, montre qu'il y a un énorme problème avec l'armée de l'air et de l'espace, qui est celui de l'attrition en cas de guerre de haute intensité, vous y avez fait rapidement référence tout à l'heure, et qu'en fait, il y en a tellement peu, des avions et surtout des équipages qualifiés, que si on commence à avoir des taux de perte d'une vraie guerre, quoi, disons, son hypothèse, je crois que c'est 4-5% par opposition, ça fait des années qu'on est à moins de 1 pour 1000, voilà, si on a des vraies guerres avec quelqu'un qui a une vraie aviation, voire des vraies capacités en sol-air, enfin anti-aérienne, bon, voilà, et ben en fait, il est juste pas sûr que l'armée de l'air et l'espace soit opérationnelle très longtemps, parce que le format permet pas forcément un taux d'attrition réaliste dans une guerre de haute intensité. Élie Tenenbaum.
Oui, absolument. L'armée de l'air et de l'espace, mais on pourrait mettre la marine, parce qu'elles ont dans le même jeu, qui ont en fait des plateformes extrêmement performantes, extrêmement complexes, qui ont fait toutes les deux d'ailleurs le pari de plateformes polyvalente. Joseph avait écrit il y a quelques années de ça, maintenant, un focus stratégique sur le choix de la polyvalence et avoir des plateformes et polyvalentes, donc complexes, mais donc pour en avoir moins, qui font un peu tout. Mais
polyvalentes, on va dire, c'est le fait que le Rafale, ça sert pour la marine, ça sert pour l'armée de l'air, ça sert pour la dissuasion nucléaire.
Oui, mais ça sert surtout pour la supériorité aérienne, pour la frappe au sol, pour le renseignement, pour beaucoup de missions traditionnelles des armées. Donc, vous faites un petit peu tout. Quand les missions sont distinctes, séparées, eh bien, c'est possible, mais évidemment, donc ça vous permet de faire des synergie et des économies d'échelle, mais le jour où vous aurez à la fois besoin de faire de la supériorité aérienne en combat RR ou face à des défenses aériennes ennemies au sol et en même temps de la frappe au sol et en même temps du renseignement, et bien évidemment vous vous rendez compte que vous avez qu'un stock limité de plateformes. Bon, en même temps, en temps normal, c'est le choix clairement le plus optimal et on a un magnifique appareil, et en même temps, il y a des scénarios où c'est compliqué, mais on pourrait dire la même chose des FREM, même dans la marine, des frégates multimissions et d'autres choix. Ensuite, effectivement, à partir du moment où ce sont des armées où globalement les quantités de plateformes se sont réduites, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on va retrouver en commun avec l'armée terre sur certaines capacités, par exemple les chars de combat. Hein, je veux dire, on a 220 le char Leclerc, on a à peu près autant de rafales, enfin, d'avions de combat omni-rôle en incluant les 2000. Et ben finalement, là aussi, on a une sensibilité à l'attrition qui est très forte. Si on regarde un petit peu les ABAC, ce qui peut exister en termes de conflits de haute intensité récents, ce sont les tables de calcul pour regarder un petit peu, tous les X jours, combien vous avez de pertes. C'est ce que fait le lieutenant-colonel Briand sur ces taux de pertes que vous évoquiez. Alors, si on regarde ce qui s'est passé au Karabakh, évidemment, les forces arméniennes n'avaient pas le degré de préparation et de compétences qu'ont les forces armées françaises. Mais si on regarde ce qu'ils ont perdu...
Les forces azéries, degré de préparation qu'auraient, par exemple, les forces russes.
Absolument. Les chars de combat, les Arméniens en ont perdu 220. C'est exactement notre stock total, quasi total de Leclerc. Donc en fait, effectivement, et ça c'était en quelques semaines de combat. Ils ont perdu, les Azéris ont perdu 11 avions de combat. Et donc là, on est effectivement sur en fait des chiffres qui font que si vous voulez en plus conserver, parce qu'encore une fois, le format il se construit par accumulation de contrats opérationnels, parce que on veut pouvoir faire l'hypothèse de haute intensité d'engagement majeur, sans pour autant renier sur notre dissuasion nucléaire, par exemple, ni sur notre posture permanente de sécurité.
On va pas prendre des rafales qui sont destinées à porter l'arme nucléaire en cas de besoin pour aller faire de la frappe au sol ailleurs.
Vous pouvez le faire jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas entamer votre crédibilité de votre alerte nucléaire, parce que sinon, là, vous vous mettez véritablement en danger. Et donc, il y a un moment où, en fait, si vous enlevez les dispositifs permanents, d'une part, et puis l'indisponibilité technique opérationnelle qui est normale parce qu'il y a des avions qui sont au garage en train d'être réparés, et puis c'est pareil pour les bateaux et c'est pareil pour les chars, à un moment, vous avez un stock effectivement très limité qui vous permet d'encaisser un certain nombre de pertes, mais en fait pas tant que ça, et ensuite le jeu s'arrête, ou alors vous montez d'un cran dans l'escalade, parce que vous dites, maintenant, moi je suis à l'os sur mes capacités conventionnelles, et donc soit je franchis la marche haute, soit je redescends d'une case, et donc c'est ça le problème.
Soit on sort les armes non conventionnelles, et notamment le nucléaire, soit on rentre à la maison.
Ça peut finir comme ça.
Joseph Arantin ?
Mais oui, effectivement, à un moment donné, c'est un des mérites du rapport de l'IFRI. Il y a ce qui est sur le papier, il y a ce qui est réellement utilisable. Et encore une fois, un des problèmes principaux des approches managériales dans la réduction des forces, c'est très souvent d'aller taper dans les aspects maintenance, formation. Et y compris formation des maintenanciers. Et donc on se retrouve à un moment donné avec des spécialités, que ce soit la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, de mécanos très particuliers sur des radars, sur ceci, sur cela, qui viennent à manquer. Donc à la limite, quand bien même on aurait les stocks de pièces détachées, quand bien même on aurait toutes les infrastructures nécessaires, tout ça n'est pas robotisé bien évidemment. Et ça, ça finit par poser problème.
Alors, je veux dire juste que pour rester encore une seconde sur l'armée de l'air et de l'espace, ce que montre très bien le rapport de l'IFRI, c'est que, notamment, justement, pour rester dans cette logique managériale, il y a une vraie problématique d'équipage et d'avions entiers. C'est-à-dire qu'il y a, théoriquement, combien d'avions, combien de machines pourraient être amenées en vol. Et en fait, ce que montre le papier, c'est que, il y a plein d'équipements un peu spécialisés, mais qui sont totalement nécessaires pour la plupart des missions, qu'on mutualise à l'échelle de la France, c'est-à-dire ici il faudrait peut-être l'envoyer quelque part, etc. Mais il n'y a pas du tout un équipement pour un avion, et que donc s'il fallait faire déployer tout en même temps, en fait on pourrait pas, parce que voilà, on fait une logique de flux, on dit s'il y en a besoin, on envoie ça là, etc. Mais en fait, si on pense à la haute intensité, l'idée c'est quand même de pouvoir déployer toute la masse qu'on peut, et là en fait on a des limites assez nettes parce que on a géré en flux tendu au plus juste depuis des années.
bien sûr. Avec la logique de synergie, encore une fois, qui avait tout son sens en termes d'optimisation pour une situation opérationnelle de référence, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, et qui trouve très vite ses limites quand on pousse les courbes.
Alors, il y a un autre aspect aussi peut-être à mentionner, c'est que quand bien même les navires naviguent, les avions volent, etc., un certain nombre de postures permanentes, t'en parlais tout à l'heure, mais vont consommer de la ressource. C'est-à-dire qu'un SNLE ne va pas sortir du port s'il n'y a pas une capacité de guerre des mines disponible pour protéger les atterrages de Brest. Même chose en matière de lutte anti-sous-marine. Donc ça veut dire qu'on va avoir une, deux, X frégates qui vont être mobilisées spécifiquement par rapport à ça. Évidemment, c'est pas sur le nucléaire qu'il faut baisser la garde. Donc voilà, ça réduit encore d'autant
c'est,
plus.
C'est ce qu'on disait aussi sur les enablers, c'est-à-dire en fait, vous avez un système qui fonctionne sur des maillons qui sont plus ou moins uniques, plus ou moins rares, et qui peuvent finalement créer des goulets d'étranglement s'ils sont trop sollicités. Et d'ailleurs, on a des adversaires qui le savent très bien et qui développent des stratégies de lutte spécifiquement contre ces enablers en disant, voilà, si je retire cette pièce du puzzle, eh bien, en fait, j'ai pas besoin
de regarder l'exemple. C'est plus facile de désactiver ou de rendre indisponible un dragueur de mine, enfin, un dispositif de lutte anti-mine qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc, disons, si c'est un tableau intriqué, s'il faut absolument toutes ces pièces pour permettre à ce gros truc qu'est le SNLE de fonctionner, c'est probablement plus facile de désactiver les pièces à
texte. C'est pas plus facile, mais ça peut être plus rentable d'éliminer un AWACS plutôt que de s'attaquer aux avions de chasse. L'EI, l'État islamique, le faisait à sa manière pendant la bataille de Mossoul, où il ciblait les démineurs, parce qu'il savait qu'en gros, l'infanterie pouvait pas avancer avant d'avoir déminé, effectivement, un terrain. Donc oui, on a le cas du dragueur de mine. Donc on a certaines capacités qui sont clés, qui sont rares, et donc sur lesquelles il faut évidemment réfléchir, surtout sur des scénarios qui impliquent de l'attrition.
Alors je voudrais dire peut-être un mot juste de la Marine nationale, parce que ça invite à penser aussi dans un contexte plus large. Donc on peut dire que, notamment parce qu'il y a un certain nombre de mouvements d'augmentation de tonnage à l'échelle globale. On a fait un long podcast avec Alexandre Sheldon Duplay pour parler de la marine chinoise, mais qui, rappelons qu'il crache le tonnage de la marine nationale à peu près tous les 4 ans, voilà, rien que ça. Mais même là, il y a aussi la marine russe qui construit beaucoup de navires légers depuis un certain temps, même la marine turque qui en voie de modernisation. Et on voit qu'en face, pour ce qui concerne les armées françaises, la marine nationale a tendance à tailler au plus juste. On a vu au moment de l'incendie de la Perle l'an dernier que, en fait, on pouvait absolument pas se permettre de perdre un sous-marin nucléaire d'attaque parce que continuer à assurer la mission qu'on veut absolument faire, ça n'est absolument pas possible d'en avoir un de moins, donc 5 au lieu de 6.
On est sur la juste suffisance, hein, qui est un des principes qui guident notre action.
C'est de la juste suffisance, par exemple aussi pour le porte-avions. On l'a dit, mais on fait des blagues souvent sur les porte-avions anglais, mais n'empêche qu'ils en sortent deux. Alors qu'il n'y en a qu'un, la France n'en a qu'un et n'en aura encore qu'un, le porte-avions de nouvelle génération, ça restera un seul porte-avions, alors que les Anglais, avec tous leurs problèmes, mais ils en ont quand même sorti deux, donc il y a toujours la possibilité qu'il y en ait toujours un à la mer.
Forcément de quoi en équiper deux en même temps.
Oui, c'est une autre question. On fait suffisamment de blagues en temps normal. Mais ce que je veux dire, c'est que si on imagine la haute intensité en mer, voilà, comment est-ce qu'on imagine la place de la France avec une marine à volume réduit depuis des années, alors que de toute évidence ça s'active et ça augmente en volume en face dans tous les compétiteurs stratégiques potentiels auxquels la France pourrait avoir à faire face. Joseph ?
Alors il y a deux choses en fait. C'est vrai qu'effectivement la juste suffisance. Il y a quelques années de ça, encore en 2006-2007, quand on parlait frégate, on disait les frêmes, il va y en avoir 17. Finalement, on termine avec 8. Donc c'est un rapport de 1-2.
Donc, c'est les frégates multimissions.
Voilà, tout à fait, les classes Aquitaine. Par contre, on a dit, mais on va avoir deux équipages par frame. Voilà, donc on choisit de rentabiliser, si vous voulez, l'outil, quitte à se dire, éventuellement, plus tard, on verra si on augmente le nombre de bâtiments. Bon. Maintenant, Au-delà de cette juste suffisance qui joue sur pratiquement tous les secteurs, malgré tout, il y a un maintien des compétences en guerre navale extrêmement large. C'est-à-dire que toutes les missions de guerre navale sont assumées et très correctement assumées. Les sous-marins nucléaires d'attaque ont beau ne plus être de première jeunesse, ils peuvent quand même, dans les exercices, aligner des porte-avions américains avec tout leur écran d'escorte, etc. Donc,
et
oui.
Puis par ailleurs, il y a une classe qui sort, on en sort des nouveaux.
Il y a les suffrains qui arrivent et qui, effectivement, là, sont encore un cran au-dessus. Donc, l'un dans l'autre, il y a quand même de beaux restes, entre guillemets. Bon, maintenant, ce qui est évident, c'est que dans la guerre navale du futur, d'une manière générale, on va assister à une augmentation de la salve. Alors c'est plus la salve canon, c'est la salve missile, mais bon, voilà, prenez les destroyers, les croiseurs chinois, ben, voilà, là où chez nous il y a 8 missiles antinavires, chez eux les missiles antinavires ils sont dans des silos verticaux, puis ben, les silos ça peut faire une soixantaine ou 112 silos je pense sur les types 55. Voilà, donc la salve est extrêmement violente, et donc là on en revient à la question de la masse, c'est qu'on a beau avoir des systèmes de défense très pertinent, si tout à coup il y a 40 missiles qui viennent sur une frégate, ça ne va pas le faire. Donc là, il est clair qu'il y a une densification de la salve, de plus gros dangers. On voit bien que le secteur de la guerre des mines, par exemple, évolue beaucoup, avec des mines de plus en plus indétectables, avec des mines extrêmement complexes, en fait des mines lance-torpilles, pratiquement, hein, qui détectent une signature particulière, qui vont lancer des torpilles, etc., etc. Tous ces secteurs-là sont en train de s'épaissir. Donc il y a, à mon avis, des réflexions qui sont à conduire sur le volume de la marine nationale. Et d'ailleurs, pas que de la marine nationale. Si vous prenez le cas des États-Unis, ils disent très clairement, les grands destroyers, c'est très bien, les classes Arleigh Burke, mais on a liquidé nos frégates un peu trop vite, hein, y compris parfois après à peine 20 ans de service actif. Il faut qu'on en revienne à la frégate. Et d'ailleurs, ils ont pris un dérivé de la FREM, les futures constellations. Et il faut travailler, le cas échéant aussi, avec des grands drones navals pour recréer cet aspect de masse. Alors, en France, on n'y est pas encore, mais ça semble réfléchir. Il y a semble-t-il, pas mal de réflexions sur le sujet. Mais en l'occurrence, c'est une guerre qui pourrait être beaucoup plus violente que celle qu'on imaginait il y a 10 ou 15 ans.
Alors, sur le plan de la marine, déjà, il y a différents facteurs au sein d'une force navale pour parler de la masse. Il y a le nombre de bâtiments. Il y a eu un rapport du Congrès américain, de l'Office of Secretary of Defense américain sur la marine chinoise, expliquant que la marine chinoise avait dépassé désormais la marine américaine en nombre de bâtiments, mais en fait, quand on regarde en tonnage, la marine américaine est encore plus de deux fois plus importante en tonnage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de bateaux petit, mais si voilà, vous comptez les porte-avions américains et que vous dites ça c'est un bateau, et vous regardez un escorteur chinois et vous dites c'est un bateau, évidemment on comprend aussi comment ces indicateurs peuvent être biaisés. Donc vous avez le nombre de bâtiments, vous avez le tonnage, et puis vous avez la puissance de feu, ce que disait effectivement Joseph à l'instant, c'est-à-dire qu'on peut regarder deux frégates ou un destroyer, une frégate de premier rang chinoises et françaises, bon, qui sont chacune un bâtiment, chacun a un tonnage à peu près équivalent, et puis on a une type 52D chinoise qui va être effectivement avec 64 cellules de lancement verticaux, donc de capacité de puissance de salve de missiles, face à voilà, des frégates françaises qui, elles, sont à peu près deux fois moins. Et à l'intérieur de cette puissance de feu, il y a la question de la nature de la munition. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant sur lequel les Américains se penchent beaucoup en ce moment. C'est-à-dire qu'on a un modèle de flotte de surface aujourd'hui qui est très défensive, en fait, qui est centré avec des frégates qui sont centrées sur la protection, en fait, du groupe aéronaval. Et donc avec un rapport attaque, un ratio attaque-défense qui est nettement en faveur de la défense, et il se trouve que les munitions défensives anti-aériennes occupent plus de place, sont plus grosses, et donc prennent une place disproportionnée, on va dire, dans un système naval par rapport à des munitions offensive. Et donc, vous avez encore une fois un trade-off qui fait que aujourd'hui la puissance de feu d'agression d'une flotte de surface navale, aujourd'hui type occidentale, qui peut être, voilà, un peu courte sur patte face à d'autres modèles de flotte de surface qui pourraient se développer par l'avenir.
Bon, et enfin, il faut quand même parler de l'armée de terre, bon, même s'il faut dire que évidemment le tableau est assez similaire, aussi bien la problématique de la technologisation dont on parlait, le fait que c'est des armes qui coûtent toujours plus cher, qui sont toujours plus technologiques, qui coûtent toujours plus cher, l'attrition, la problématique est aussi relativement similaire. Mais on peut dire que l'armée de terre est par ailleurs une armée qui est évidemment extrêmement sollicitée par les déploiements extérieurs, par Barkhane, avant par Chammal, enfin bon, par toutes les OPEX de la France ont fortement mobilisé l'armée de terre. Sentinelle aussi, l'armée de terre est évidemment au premier rang pour faire patrouiller des soldats dans les rues. Et depuis des années, il y a donc des carences qui sont très connues et qui sont très quantifiées en termes de temps d'entraînement pour l'armée de terre. Et c'est un vrai problème, c'est une vraie armée qui n'a pas du tout assez de temps de s'entraîner par rapport à ce qu'ils veulent eux-mêmes. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi assez souvent dans vos différentes productions, c'est que non seulement il n'y a pas assez de monde, mais que en plus, c'est même pas qu'une question de volonté, il suffirait, c'est même pas, on pourrait dire, il faudrait recruter, il faudrait faire plus de monde. C'est qu'il y a tout un appareil qui est dimensionné pour cette dimension-là de l'armée de terre, mais que, voilà, si on voulait passer de 110 000 hommes à 150, ben on pourrait pas, parce que il faut des centres d'entraînement, il faut des formateurs, il faut construire des infrastructures, et que c'est un truc de très long terme. On peut pas appuyer sur un bouton et augmenter la masse, même la masse humaine. En fait, il y a vraiment des infrastructures de formation qui, à l'heure actuelle, ne permettent pas du tout de changer, enfin, de refaire de la masse humaine.
Joseph, oui, en fait, on retombe sur un grand classique des écoles de guerre, qui est la production d'un format d'armée, où on passe à un moment donné par la question capacitaire, qui elle-même se traduit par le terme DORES. DORES, c'est doctrine, organisation, ressources humaines, équipement, soutien et entraînement. Voilà. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est pas le tout d'avoir effectivement votre char. Il faut évidemment les infrastructures pour l'abriter. Il vous faut un équipage qui soit non seulement formé, mais un équipage aussi qui puisse s'entraîner. Et donc, in fine, à côté de ce DORES-là propre au char, ben, forcément, votre char, il opère pas tout seul. Il vous faut des véhicules de combat d'infanterie. Il vous faut toute la gamme des soutiens et des appuis possibles et imaginables. Et donc, de facto, vous vous retrouvez avec des formats qu'il est difficile de faire évoluer. Alors, l'armée de terre, ici, en travaillant sur sa question, sur la vision stratégique, en mettant en œuvre la vision stratégique qu'avait mis en place initialement le général Burkhardt, très clairement, va remiser sur les aspects liés à l'entraînement. Alors, non seulement les entraînements au plus bas échelon, la section, etc., en diversifiant le nombre, enfin, en accroissant le nombre de son entraînement, mais aussi en s'entraînant à un format plus adapté à la haute intensité et en revenant sur l'entraînement au niveau des brigades, au niveau des divisions. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment notable sur la question de l'armée de terre, c'est la réintroduction de la notion de division. Parce que là, on revient sur du lourd, entre guillemets. On n'est plus sur cette logique de brigade qui avait dominé les années 90-2000, 2000-2010, plus légère, fournisseuse, grosso modo, de GTIA, un groupement tactique interarmes qui allait être projeté sur des théâtres extérieurs.
Ouais, ça, disons, globalement, c'est le bon format organisationnel si on veut envoyer des unités en OPEX. Et inversement, enfin là, on commence à réfléchir, à penser...
C'est pas que réfléchir, hein. Les états-majors de division ont été remis en place, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir jouer avec des brigades, avec des blocs de brigades qui pourront être engagés simultanément, s'appuyant les unes les autres, etc. Et avec, avec une capacité à produire beaucoup plus d'effets militaires. Donc il y a une vraie adaptation qui est faite là-dedans, et qui est aussi finalement une rentabilisation de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'avant d'avoir plus, il faut déjà utiliser à bloc ce qu'on a déjà et de la manière la plus optimale possible. Et une de ces manières, c'est l'organique. Et le fait de revenir justement sur ces formats divisionnaires, au demeurant, les Britanniques reviennent aussi dessus, les Américains y réfléchissent très sérieusement. Voilà, on voit bien que c'est lié finalement à l'intérêt tactique.
Et il y a effectivement le niveau de commandement, en fait, tout simplement, et à quelle échelle on joue les scénarios, les exercices. C'est vrai que pendant 20-30 ans, en fait, les unités tactiques étaient effectivement déployées, étaient interarmes, étaient en fait au niveau du bataillon. Hein, le GTIA, c'est un niveau de bataillon. Et donc ensuite, on avait un poste de commandement interarmes et théâtre qui était, voilà, au niveau d'une brigade, hein, d'un PC de brigade gros, un peu grossi, mais on était en fait sur le terrain, sur quelque chose d'assez réduit. Et là, en fait, on va franchir d'un cran, donc on va pas forcément avoir des divisions entières qui seraient déployées, mais potentiellement des brigades entières déployées avec un commandement à l'échelon divisionnaire. Après, il y a aussi des choix sur le plan capacitaire, et là on rentre dans, c'est la culture et l'identité de l'armée de terre, surtout d'une armée de terre post-guerre froide, qui a quand même supprimé un bon nombre de régiments, et qui, dans ce qu'elle a gardé en termes de régiments, sont en fait des régiments historiquement, les régiments coloniaux, les régiments de l'ancienne armée d'Afrique, si on veut dire, qui étaient effectivement dans une culture de l'infanterie légère, de la projection, parce que c'était ce qui correspondait aux demandes du politique dans les années 90-2000, c'est ce qu'on voulait projeter. Et évidemment, l'effort capacitaire aussi sur les dernières années, le programme Scorpion, est un effort sur le segment, non pas un segment léger, mais un segment médian, et pas sur le segment lourd. Alors c'est le grand enjeu du programme Titan de l'armée de terre aujourd'hui, que de s'intéresser au segment lourd, à l'avenir de la frappe d'artillerie dans la profondeur, Future Combat Indirect Fire System, le MGCS, qui est donc le successeur, futur successeur du Leclerc ou d'un ensemble de systèmes dont le Leclerc aujourd'hui fait partie, et donc ce segment lourd qui n'est plus aujourd'hui nécessairement au cœur de l'identité et de la culture tactique et capacitaire de l'armée de terre, c'est en train de le redevenir, mais ça se transforme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez plus de lourds, bah forcément, ça va être beaucoup plus compliqué à l'envoyer en Afrique sur des théâtres qui aujourd'hui le nécessitent pas. Donc tout ce que vous allez avoir comme chenier blindé en plus, eh ben, c'est encore perçu dans un certain nombre d'unités comme voilà, du véhicule léger. En moins, et qui aujourd'hui est ce qui est véritablement utilisé sur le terrain. Donc il y a toujours là aussi un choix difficile, particulièrement pour l'armée de terre, parce que c'est une armée qui est surengagée en opération, entre ce dont on a besoin aujourd'hui et ce dont on pourrait avoir besoin demain. Et donc là, les sacrifices sont difficiles, y compris en termes, encore une fois, d'identité, de culture, d'expérience opérationnelle pour des générations d'officiers, de sous-officiers qui auront vécu un type d'opération et auxquels on demande aujourd'hui de se préparer à quelque chose d'autre.
C'est nous les descendants des régiments d'Afrique, les chasseurs, les spahis, les goumiers, gardiens et défenseurs d'empire magnifique. Sous la lance soleil, chevauchant sans répit, le fier conseil, toujours prêts à servir, à ma croix mourir. Nos cœurs se sont unis pour la patrie, la la.
Alors, tout ça pose évidemment la question des pistes qu'on peut utiliser. Alors, on les dessine depuis tout à l'heure, mais pour recréer de la masse sans exploser complètement les budgets, parce que bon, il s'agit de rester réaliste, le budget de la défense ne va pas doubler ou tripler dans les années qui viennent. Et en particulier, j'aimerais parler, peut-être dire un mot, de ce qu'on pourrait appeler le solutionnisme technologique, c'est-à-dire l'idée que la technologie viendra, le salut viendra de plus de technologies. C'est un truc qu'on voit assez souvent dans le discours, notamment autour des drones. On dit par exemple que voilà, il suffit de faire plus de drones, c'est par exemple une des pistes pour le SCAF. Il y a un avion, mais on va faire plein de drones autour, ça permettra de recréer de la masse. C'est aussi quelque chose qui est envisagé dans le domaine naval. La France est peut-être un peu en retard là-dedans, mais c'est quelque chose de très prometteur, des drones de surface ou sous-marins. Même l'armée de terre, avec les systèmes de type Scorpion, c'est pas de l'automatisation, c'est pas des drones, mais c'est beaucoup de communication, de numérisation, des systèmes beaucoup plus efficaces qui permettraient de faire plus avec moins. Alors évidemment, c'est séduisant de dire que la technologie va tout résoudre, et puis il s'agit de faire... On fait des promesses sur le futur, donc c'est difficile à contredire aussi en sens inverse. Mais simplement, est-ce que ce sont des pistes rationnelles à l'heure actuelle? Ou est-ce que, si on veut travailler sérieusement sur la haute intensité, il faut recréer vraiment la masse à l'ancienne parce qu'il ne faut pas trop compter dessus? Parce que ça n'a rien d'opérant à l'heure actuelle, notamment quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de choses entièrement automatisées, on sait bien qu'on est loin d'un stade qui permettrait un déploiement réel. Est-ce que cette idée qu'on va faire des choses automatisées, ça peut être un palliatif aux limites très réelles qu'on expose depuis tout à l'heure dans la masse?
Tout dépend de Joseph. L'automatisation de laquelle on parle. Dans un certain nombre de cas, ces automatisations, elles sont utiles. Elles vont permettre de rentabiliser déjà ce qu'on a, faire la maintenance prédictive, par exemple, utiliser les IA pour faire de la maintenance prédictive, et donc éviter les casses sur le terrain, et donc faire en sorte qu'un matériel passe le moins de temps possible finalement à l'atelier. Ça permet déjà de réaccroître un petit peu la...
C'est des trucs très intéressants, c'est on mesure par exemple les vibrations sur des pièces pour prévoir l'usure au lieu de faire « Ah, ça a cassé, il faut changer », dire « Ah bah là, ça va peut-être casser prochainement, on peut
changer ». Même à partir de séries statistiques, en sachant que un certain nombre de pièces lâchent tous les 1000 km.
On peut changer à 900, ça coûte pas plus cher.
Tout à fait. Au-delà de ça, évidemment, on peut partir sur des logiques de robotique et ainsi de suite. Alors, de quelle robotique là aussi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'IA forte qui vont être capables d'anticiper les choses et qui vont être capables d'être vraiment un ailier loyal, on va dire, au pilote de chasse ou au chef de char, etc. Bonne question. Il y a là aussi des hypothèses de rentabilisation de systèmes déjà existants. Un exemple un peu bête et méchant, les Britanniques avaient exploré ce concept-là avec le FOAS au début des années 2000, c'est le fait de dire, on prend un appareil de transport, puis on le transforme en bombardier. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre des palettes sur lesquelles on va installer des missiles de croisière, et puis plutôt que de faire porter les missiles de croisière par les avions de combat, on va réserver les avions de combat à autre chose, et puis l'appareil va s'insérer, on largue la palette, puis les missiles partent, etc. Les Américains sont en train de tester un certain nombre de choses là-dessus.
Camion
à bombe, littéralement, et donc ça, c'est une forme de robotisation soft, parce que la palette a ses propres capacités, etc. D'autres aspects sont intéressants. Le fait de dire, on va utiliser non pas des avions de chasse pour aller faire de l'offensive counter-air dans l'espace aérien ennemi, donc faire de la chasse vraiment au-dessus du territoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer missiles air-air longue portée sur des drones porte-missiles, finalement, qui eux-mêmes seront largués par des avions ou par des appareils de transport, et puis qui vont lâcher une pluie de missiles sur les capacités aériennes adverses, en avance de phase, on va dire, de la progression des appareils pilotés, cette fois-ci. Et donc, comme ça, on évite de... Mais là aussi, je pense que la robotique va permettre de faire des choses très, très intéressantes, mais je pense qu'on en est qu'au tout début, finalement.
Et donc, c'est pas des trucs incroyablement puissants, c'est de l'automatisation assez réaliste de trucs qui existent déjà, voire de trucs qu'on réutilise pour autre chose, pour les rentabiliser. On n'est pas sûr, on va créer des avions de chasse entièrement pilotés par l'intelligence artificielle qui vont défaire tout le monde, quoi.
Vous pouvez le faire, mais et évidemment, il faut travailler là-dessus. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que ça vous fait sortir de votre équation d'Augustine dont on parlait au départ, qui est que vous avez des matériels de plus en plus performants, de plus en plus technologiques, de plus en plus intenses en capital, et donc qui coûtent plus cher, et donc vous allez financer d'une certaine manière par la réduction du nombre des séries. Et donc si vous avez de la technologie qui, se traduit par, de fait, la réduction de la quantité, c'est pas une solution à votre problème de la masse, vous continuez d'une certaine manière la course en avant en disant bah oui, je vais avoir plus de performances, il va pouvoir faire plus de choses, j'en aurai moins, mais comme ça sera une meilleure plateforme, je vais m'en sortir. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se développe, par exemple avec le cas des munitions rôdeuses dont je sais que vous avez parlé dans un précédent épisode, et en tout cas dont DSI a largement traité, c'est par exemple l'idée de se dire peut-être qu'on peut avoir de la technologie effectivement moins coûteuse, avec parce que c'est automatisé, parce qu'on n'a pas de perte humaine, on peut se permettre de se rapprocher davantage des enveloppes d'interdiction et surtout d'en perdre, mais il faut absolument garantir le côté financièrement intéressant.
Et c'est-à-dire utiliser un vieil avion pour en faire une munition rôdeuse, c'est-à-dire on le dronise et on le bourre d'explosifs et éventuellement on le projette sur une batterie anti-aérienne ennemie. Ça coûte pas cher, limite, ça rentabilise un avion qui existe déjà.
Ça coûte pas cher, mais c'est pas forcément ce qui va faire rêver les bureaux d'études de l'industrie de défense, ce qui va être le plus en pointe sur le plan de la technologie. C'est pas une solution technologique en soi. En fait, c'est une utilisation, c'est un détournement un recyclage en fait de matériel existant, ce qui est une piste qui existe. Mais même on peut imaginer de nouvelles plateformes, mais qui sont des plateformes à moindre coût et sur lesquelles on pourrait augmenter la série. Donc l'une des solutions qu'on imagine aujourd'hui, c'est d'aller vers une diversification des parcs, ce qui pose aussi son problème en termes de maintenance, parce que quand vous avez des parcs trop hétérogènes, évidemment, chaque pièce demande un peu un suivi, on va dire, personnalisé, mais en même temps, de se dire, bah voilà, sur certains matériels peu chers, on va pouvoir se permettre de retrouver la masse, de la quantité, et donc ne plus avoir peur d'arriver à court ou de munitions ou de plateformes au bout de 3 jours de guerre, et en même temps conserver des pointes de diamant qui vont continuer à la fois faire travailler la pointe de la technologie, permettre d'avoir des performances qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Et donc, on est sur vraiment cet équilibre extrêmement difficile à atteindre aujourd'hui et à trouver entre pousser le plus possible, le plus loin possible, ce que permet la technologie, la R&D, la RT de pointe, et vraiment ce qui pourrait changer à un moment donné l'équilibre du champ de bataille. Et puis, là où, en fait, tout simplement, il faut récupérer, savoir ce qu'on sait déjà faire, mais ce qu'on fait trop cher, et donc en trop peu de quantité, et donc sans résilience.
Enfin, ma dernière question va être peut-être un petit peu philosophique, ça aurait presque pu être la première, en fait. Et simplement, à votre avis, comment on se prépare à la haute intensité sans y être ? C'est-à-dire, je veux dire, les OPEX, la contre-insurrection, dans une certaine mesure, il y en a en permanence depuis plus d'un demi-siècle. Donc même si ça fluctue, c'est des compétences qu'on peut conserver, qui ont été conservées par les armées, notamment françaises. Et la haute intensité, je sais même pas quand on peut dater la dernière fois que la France s'y retrouvait vraiment dans un conflit de haute intensité. Peut-être la campagne de France de juin 40, et ça s'est pas hyper bien passé. Ouais. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on s'entraîne et comment est-ce qu'on se prépare efficacement à un type de conflit qu'on n'a pas vu depuis bientôt un siècle, ni nous, ni d'ailleurs pas grand monde en fait.
Je fais un point et puis je pense que Joseph aura des éléments vraiment là-dessus. Mais d'abord, il faut ouvrir son imaginaire et donc évidemment faire sauter un certain nombre de tabous, d'impensés, de choses où on dit « mais ça, ça n'arrivera pas de manière un petit peu, un petit peu radicale, un petit peu trop facile pour écarter des hypothèses de travail. » Et dans ce cas-là, l'analyse prospective, mais aussi le wargaming, le red teaming, un certain nombre de méthodes, de réflexions qui permettent d'ouvrir le champ des possibles est absolument nécessaire. Et évidemment, travailler avec un certain nombre d'acteurs qui sont hors du champ, qui n'ont pas les préconçus, qui n'ont pas les impensés du monde militaire, qui sont d'une certaine manière dans ces hypothèses depuis très longtemps, qui baignent dans la trajectoire en tendance depuis trop longtemps, permet de faire sauter les verrous. Ça implique aussi de mieux réfléchir encore une fois sur l'articulation avec les intérêts vitaux, avec le champ du nucléaire, parce que pendant 30 ans, on a trop découplé le monde de la dissuasion du monde des opérations conventionnelles, en disant finalement ce sont deux couloirs complètement parallèles et étanches, alors qu'en fait, si on se rapproche de la haute intensité, il va falloir à nouveau réfléchir sur ces questions de seuil, sur ces questions d'articulation et éventuellement d'un continuum, alors même que la posture française, c'est de renforcer l'exceptionnalité de l'arme nucléaire. Donc ça veut dire qu'il faut réapprendre à penser ensemble entre communauté de la dissuasion et communauté des opérationnels, de la réflexion doctrinale de défense conventionnelle, réapprendre à se parler et à travailler ensemble sur des scénarios communs. Ça, je pense que c'est des points essentiels auxquels penser. Puis j'avais une troisième idée que j'ai oubliée à l'instant.
Joseph.
Alors oui, mais je pense qu'Elie a raison. Et au-delà de ça, il y a un aspect qui est beaucoup plus « old school », entre guillemets, mais qui consiste tout simplement à faire du retour d'expérience sur ce que d'autres armées ont vécu. Quand vous regardez Israël face à l'Égypte pendant la guerre du Kippour, c'est quand même extrêmement violent en termes de volume de feu, de pertes. Durant les premiers jours, la force aérienne israélienne a beaucoup de mal, énormément de pertes avec la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à combattre, etc. La guerre d'Artsakh, la guerre au Karabakh, qui montre que ce n'est pas nécessairement les très gros États qui sont des États belligérants et qui sont capables de mettre en œuvre des feux complexes. Donc il y a toute une vraie réflexion. Pas nécessairement sur les war studies, mais peut-être sur les warfare studies, vraiment le combat, les taux d'échange, donc qui perd quoi quand, grosso modo, et à quel rythme, tout ça est à faire. D'autre part, je pense que le wargaming aide beaucoup. Il y a ce cas d'étude, c'était Stéphane Rosen, je pense, qui abordait cette question-là par rapport à la manière dont l'US Navy s'approprie dans les années 30 la question aéronavale. Et elle le fait en fait en faisant du wargaming, en jouant avec des maquettes pour savoir quel doit être le pont d'un porte-avions, comment est-ce qu'il doit s'organiser, quel type d'avion il faut. Et c'est là où on commence à déterminer, il faut des torpilleurs, il faut des bombardiers en piqué. Ok, donc ça veut dire qu'on peut établir un cahier des charges à l'industrie qui ensuite peut commencer à réfléchir concrètement à qu'est-ce qu'il faut. Et en fin de compte, ça a très bien marché. Il y a eu cette capacité finalement à se projeter dans l'avenir avec des jeux, ça coûte finalement pas très cher, mais par contre il y a un coût culturel.
Et ça, on peut signaler, on en a parlé avec Antoine Bourguillot et on en a même parlé avec Pierre Razou au tout début du podcast. C'est un truc, la France a un retard monstrueux dans le wargaming. C'est un vrai truc, quoi. On en fait partout du wargaming, les États-Unis en font tout le temps. Il n'y a qu'à aller sur War on the Rocks, qui est le site américain quasiment de référence pour, disons, actualités du monde militaire, la réflexion stratégique, et de voir qu'ils passent énormément de temps à parler de wargaming, parce que c'est ce que font les officiers toute la journée. En France, il suffit de parler à n'importe quel officier, la probabilité qu'il ait un jour fait du wargame, un vrai wargame, c'est-à-dire pas des opérations, etc., du wargame, c'est très 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 faible, parce qu'il n'y a pas de structure et il y a une vraie distinction culturelle sur ce point-là.
Alors, c'est vrai, mais il y a aussi la question du temps. C'est-à-dire que quand vous passez d'une OPEX à l'autre, et puis de l'OPEX, vous reconditionnez un peu, vous repartez à l'entraînement, vous n'avez tout simplement pas le temps ni de lire, ni de commencer à établir des scénarios wargame, ni a fortiori de les jouer. Et un des enjeux de la haute intensité, c'est peut-être de se réapproprier aussi justement ce facteur temps. C'est très difficile de faire à la fois ce qu'on fait actuellement sur Barkhane, sur tout un tas d'opérations, et en même temps de se projeter sur quelque chose de complètement différent. Simplement parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que les gens sont déjà bien bien chargés, quoi.
À tous les points de vue, la solution, c'est de sortir du modèle d'OPEX actuel pour pouvoir se redéployer vers la haute intensité, aussi bien à l'échelon individuel qu'à l'échelon des armées. Élie ?
Ah, justement, c'est mon troisième point qui me revient avec l'esprit d'escalier, mais sur ce qu'on fait aussi de notre expérience très riche, en fait, de ces 20-30 dernières années d'opération, et pourquoi il ne faut pas non plus tout jeter avec l'eau du bain. Alors, je pense qu'il y a effectivement une réflexion à avoir sur les OPEX dans un monde marqué par la compétition stratégique où en fait le continuum voilà, paix, crise, guerre et intervention, stabilisation, normalisation, ça marchera plus comme ça. Et en même temps, la haute intensité ne sera pas que de la haute intensité. C'est une erreur fondamentale, et ça je pense qu'on l'a pas assez dit, de croire que on va se remettre à faire du champ de bataille dans un pré où on a des armées qui se retrouvent en dehors des populations, en dehors des réseaux sociaux, en dehors de toutes les contingences politiques, dans une espèce de combat parfait en laboratoire, dans des conditions chimiquement pures. Ça sera pas ça. On a des adversaires qui, encore une fois, savent gérer l'escalade, ils n'ont aucune envie, et nous non plus d'ailleurs, ça tombe bien, d'aller tout en haut du seuil capacitaire vers l'échange nucléaire. On a des adversaires qui réfléchissent énormément en termes d'approche indirecte, en termes de stratégie d'influence, et tout ça ne va pas tout d'un coup disparaître parce qu'on rentre dans une conflictualité de haute intensité. Ça va se surajouter, ça du coup va jouer sur les mécanismes de désescalade ou de contournement, de stratégies indirectes qui se combineront à de la stratégie directe. Et donc aussi tout ce qu'on a appris en termes de contre-insurrection, en termes de contre-terrorisme, en termes de stratégie d'influence, en termes d'action civile ou militaire, enfin j'en passe, va aussi devoir être mise à profit dans ce type de scénario. Et quand on voit voilà ce qui s'est passé, encore une fois, sur le modèle de plus en plus intéressant du Haut-Karabakh, on voit que tout ça, c'est combiné. Et ce qui a créé des effets stratégiques n'était pas forcément uniquement ce qui a le plus attiré le regard sur la puissance de feu et sur les drones TB2, même s'ils ont joué un rôle central. Mais y a aussi d'autres éléments, et ça, il faut le prendre en compte pour avoir garder à l'esprit l'idée d'un champ de bataille complexe où les différentes lignes d'action se combinent, se cumulent, et donc l'hybride, pour utiliser un autre buzzword de ces dernières années, n'exclut pas la haute intensité mutuellement, parce qu'on a trop l'habitude de raisonner en France en termes, en Occident d'ailleurs, en termes de seuil, en disant, bah voilà, dans cette catégorie-là, en dessous de ce niveau-là, on est dans ce type de conflictualité, après, on passe sur quelque chose d'autre, alors qu'en fait, ça se cumule et ça s'engage.
Très bien, bah merci beaucoup à tous les deux, ainsi qu'à Stéphanie Pézard, dont je rappelle donc ce focus stratégique numéro 105 de l'IFRI que vous avez coordonné à Lichtenberg et écrit par Raphaël Briand, Jean-Baptiste Florent et Michel Pesker, intitulé « La masse dans les armées françaises, un défi pour la haute intensité », qui est librement téléchargeable sur le site de l'IFRI, je rappelle aussi votre ouvrage multiprimé désormais, intitulé « La guerre de 20 ans » chez Robert Laffont, coécrit avec Marc Ecker. Je rappelle par ailleurs le titre du rapport de la Ronde, rédigé par Stéphanie Pézard, Michael Shurkin et David Oshmanek, Strangulize, Stretch, Thin, tout aussi facilement téléchargeable. Et enfin, ce hors-série numéro 79 de DSI, consacré aux armées françaises, numéro spécial intitulé Nouveaux horizons, nouvelles ambitions, ainsi que le numéro régulier, le nouveau, numéro 155, qui va bientôt arriver en kiosque, qui est déjà disponible en ligne. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que commentaires, recommandations, notes et remarques sont toujours autant les bienvenus sur Apple Podcasts, SoundCloud ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. On lit toujours ça avec intérêt et ça aide à diffuser ce qu'on fait ici dans cette émission. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.